Bon, je reprends donc le cours. Toujours dans ce, pour ce problème des romans qui pourraient figurer des espaces idiorhythmiques, certains auditeurs veulent bien nous donner des idées. On m'en a signalé une. Il s'agirait du roman de Giono qui s'appelle « Que ma joie demeure ». Avec aussi le problème de la communauté que Giono avait tenté de susciter en 1935. Donc ceci a versé au dossier de l'idiorhythmie. Et aujourd'hui j'aborde une figure assez importante que j'ai intitulée « La clôture ». Il s'agit donc de la clôture, ou comme on dirait d'un vieux mot français qui est aussi un mot anglais, de l'enclosure de l'espace viagier, de l'espace où on vit. Vous vous en doutez, c'est un immense dossier où devraient prendre place des éléments venus de plusieurs sciences. C'est vraiment un thème pluridisciplinaire. Alors, ce que je voudrais marquer ici seulement, ce sont, disons, certaines fonctions, disons, en gros, anthropologiques de la clôture. De ce point de vue, je pense que le phénomène de clôture de l'espace viagier doit être mis en rapport avec un fait éthologique, qui concerne donc les mœurs, les habitudes des animaux. C'est la notion de territoire. Il est possible, cela dépend un peu de la vitesse à laquelle nous parcourrons l'alphabet, et comme territoire est à la fin, je ne suis pas très sûr d'y arriver, mais il est possible que nous fassions une figure sur territoire. Vous savez qu'il y a des animaux à territoire. Le territoire d'un animal, c'est une notion scientifique. C'est, disons, l'espace de sécurité qui comprend, qui protège ou qui approprie à la fois les fonctions de nourriture et les fonctions de reproduction de l'animal, où aucune intrusion du voisin n'est tolérée. Dans le territoire, dans son territoire, chaque animal ou chaque sujet est dominant chez lui. Les animaux à territoire, dit-on, sont surtout parmi les rongeurs, les carnivores, les ongulés et les primates, et aussi des oiseaux. C'est pour ça que le roi Gouran a pu dire que l'homme était un animal territorial comme le cerf et comme le rouge-gorge. Cette notion de territoire, bien sûr, si on la sort de l'anthropologie, elle garde sa vitalité et elle rend compte en particulier d'une opposition qui est très importante dans la vie moderne et dans la législation moderne et dans l'idéologie moderne, qui est l'opposition du public et du privé. Vous savez que c'est une notion qui a des aspects historiques, des aspects idéologiques, qu'il y a actuellement une législation qui instaure la défense légale du privé. Le privé est une notion législative, mais à travers ces variations historiques et idéologiques, il est probable que cette notion a un fond anthropologique. Le privé, c'est le territoire. Naturellement, il peut y avoir des cercles concentriques ou concentrés de privé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un territoire dans un territoire. Par exemple, le grand domaine rural est un territoire, ou était un territoire, à l'intérieur duquel il y avait un territoire plus petit, à savoir la maison, dont les domestiques agricoles, les esclaves agricoles, étaient exclus. Dans la maison, nous l'avons vu, il y avait la chambre, et tous les habitants de la maison n'y étaient pas admis. Et je dirais que même dans la chambre, on peut considérer, dans certains cas, le lit comme un territoire. Par exemple, j'ai cité ce cas, dans Proust, le lit est à tous les caractères typiques et topiques du territoire, le lit de la tante Léonie. Son lit, une table à côté, la fenêtre, c'est son territoire, c'est son privé absolu. Et nous savons aussi que dans bien des espaces répressifs, la répression consiste précisément à priver le sujet de son privé, c'est-à-dire de son territoire, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les casernes, dans les internats. Le sujet n'a plus de territoire. En éthologie, n'est-ce pas, ce qu'il faut bien voir, c'est que le territoire n'est pas seulement défendu, c'est sa fonction immédiate et évidente est de protection, mais il est aussi signalé. Le territoire est signalé. Et par exemple, l'hippopotame jalonne, c'est-à-dire signale son territoire par ses excréments. Il dispose ses excréments en bordure de son territoire et ce sont les excréments qui font le territoire. On pourrait dire que, disons, l'habitude que rapporte Genet, que certains voleurs ont ou avaient, de déposer leurs excréments dans la potiche du salon qu'ils venaient de cambrioler, était simplement l'affirmation d'un transfert de territoire. Donc, de là, je crois qu'on peut tirer, tout cela est d'ailleurs assez banal, deux fonctions de la clôture dans son rapport originel avec le territoire, une fonction de protection et une fonction de définition. Alors, la fonction protectrice de la clôture, je la cite pour mémoire, parce qu'il est évident que c'est très banal et que c'est un dossier énorme. L'éthologie, l'architecture, l'idéologie, tout ça fait partie ou s'occupe de la fonction protectrice de la clôture. L'idéologie qui, par exemple, transforme dans les sociétés le territoire en propriété et la protection en interdiction de pénétrer. Je voudrais noter simplement, venu alors de notre corpus à nous ici, que bien entendu rappeler que les monastères, tout au moins les monastères chrétiens, les monastères tels que nous les connaissons depuis Saint-Benoît, sont des espaces qui sont clos matériellement. Il y a des murs de délimitation du monastère, et de plus, vous le savez bien, à l'intérieur du monastère, dans certains cas, pour certains ordres, il y a une clôture, précisément au sens monastique, c'est-à-dire une partie qui est rigoureusement interdite aux séculiers, signifie la fermeture au monde, la négation du mondain, comme risquant d'altérer l'identité du moine. C'est l'interdit de pénétrer au profane, à celui qui est à l'extérieur du temple, interdit de pénétrer dans l'espace sacré, c'est-à-dire consacré. Il faudrait revoir ici, comme toujours dans ces cas-là, les études de Benveniste sur le sacré dans le très grand et très beau livre sur les institutions, le vocabulaire des institutions indo-européennes. Alors, en face de cette clôture des monastères cénobitiques, nous avons vu déjà que les espaces idiorhythmiques étaient beaucoup moins fermés, sauf les béguinages, justement. J'ai parlé des béguinages. Ce sont des espaces sans clôture ou à clôture légère, à clôture, pourrait-on dire, relâchée, laxiste. Il y a une idée laxiste de la clôture chez les idiorhythmiques. Et pourquoi ? Parce que l'idiorhythmie ne protège pas une pureté, c'est-à-dire une identité. Et son mode d'implantation dans l'espace n'est pas la concentration, mais au contraire la dispersion, l'espacement. Il y a, toujours dans notre corpus, une description importante de la clôture-protection, c'est dans Robinson Crusoé. Peut-être, si vous vous rappelez ce roman, qui de toute manière est à relire ou à lire parce qu'il est tout simplement un très bon roman, tout simplement. Eh bien, dans Robinson Crusoé, à un moment, il y a Robinson qui est seul, se livre à une protection minutieuse et acharnée, je dirais presque délirante, quasi obsessionnelle, de sa hutte, de sa cabane, de sa demeure, contre l'homme. Dès qu'il y a une possibilité, la possibilité qu'il y ait un autre homme sur son île, ce qu'il voit à des traces, eh bien, immédiatement, il prend des mesures folles de protection. Sa maison est complètement enfouie, il la rend invisible par tout un système de redans, de caches, etc. Et nous atteignons ici à une chose dont je vais reparler pour finir, qui est la clôture, disons, comme expérience limite, comme délire. Ça, c'est la première fonction, la fonction de protection. Alors, il y a une seconde fonction de la clôture, qui est la fonction de définition. Vous savez que c'est le sens étymologique de définir, c'est tracer des limites. Finis, c'est la frontière, c'est la limite. Donc, définir, c'est tracer des limites, des frontières. Et la clôture sert à la définition du territoire et donc de l'identité de son ou de ses occupants. Par exemple, je donne deux exemples très différents. Les monastères bouddhiques à Ceylan sont des bâtiments dispersés dans une cour jardin. Il y a certes une clôture, mais contrairement à ce qui se passe justement dans les monastères catholiques de l'Occident, et nous l'avons vu à ce qui se passe aussi, ce qui se passait dans les béguinages, dans ces monastères bouddhiques, la clôture est très légère, ce n'est pas une clôture de protection ou d'interdiction, c'est seulement une clôture de définition et de définition assez abstraite. Il s'agit en général uniquement d'une haie ou de fil de fer, la porte est à deux battants mais elle est toujours ouverte, et lorsqu'il s'agit d'un monastère dans la campagne, il n'y a même pas de porte, il y a une ouverture très large sans vantaux. Autrement dit, la communauté bouddhique se définit, mais elle ne se ferme pas, elle n'interdit pas, elle n'exclut pas. Je donne un autre exemple, alors tout à fait différent et tout à fait laïque, c'est le cas de l'immeuble, disons, bourgeois, tel qu'il est décrit dans Paubouille. Eh bien, cet immeuble bourgeois que Zola a décrit est un immeuble qui est certes très protégé, puisqu'il y a des portes fermées, verrouillées, il y a un concierge qu'on appelle un cerbère, et aujourd'hui, n'est-ce pas, sinon dans les immeubles, tout au moins dans les appartements, il y a, je ne sais pas si ça a un nom technique, cette espèce d'œil qui permet de voir qui frappe à la porte. Il y a tout un système de protection. Mais, c'est ce que Zola a très bien montré, l'immeuble bourgeois est structuré aussi par un appareil de délimitation. Et cet appareil de délimitation, ce sont tout simplement ses surfaces. Les surfaces de l'immeuble sont chargées d'afficher le retrait de l'intérieur, la façon dont l'intérieur se retire et donc le privé se définit. Et Zola décrit abondamment ces surfaces, c'est-à-dire les façades, les portes, les fenêtres qui sont uniformes. Dans la cour, il n'y a pas une cage d'oiseaux, les persiennes sont éternellement closes, et d'ailleurs, Zola poursuit en disant que cette sorte de définition par les surfaces est une définition absolument factice, parce qu'il s'agit de façades en toc faites pour l'esbrouf, pour la poudre aux yeux, moulure, dorure, velours des escaliers, peinture, mais, dit-il, ça n'a pas 12 ans et ça part déjà. Et ce territoire général, à savoir l'immeuble, donc définit bien l'être de la communauté qui l'habite, cet être qui est la respectabilité. Et à l'intérieur de ce territoire général, il y a bien entendu des territoires particuliers, plus rigoureusement délimités, qui sont les appartements. Et là, l'être défini par cette nouvelle limite, c'est évidemment l'être canonique, si je puis dire, de la famille. D'où le rôle de l'escalier bourgeois, qui est très bien décrit par Zola, avec toutes ses portes fermées, et l'escalier fonctionne comme le hors-limite. Je ne sais pas si vous avez lu ou si vous vous rappelez ce roman. Enfin, il y a une jeune femme, Berthe, qui est surprise en adultère avec Octave Mouret. Et elle veut s'enfuir et elle est surprise dans les chambres de Bonne. Elle veut regagner son appartement et elle ne le peut pas parce que toutes les portes sont closes et elle erre comme une folle dans l'escalier. Elle est traquée dans l'escalier comme par un extérieur implacable. C'est-à-dire que l'escalier, avec toutes ses portes fermées, représente toute l'exclusion où les familles la rejette. Elle est rejetée de l'être familial et condamnée à l'escalier. Donc, la clôture, c'est un signal. Je vais maintenant dire un mot de la clôture comme expérience limite. Je voudrais commencer par dire que, à mon sens, la plus grave question posée par l'anthropologie et notamment par la préhistoire, à mon avis, ça n'est pas à proprement parler de quand date l'homme. J'ai vu récemment un débat à la télévision, qui était un débat d'ailleurs qui n'était pas mal fait, mais où il y avait des spécialistes, et où la pression, disons, de la culture de masse télévisuelle était de ramener la question anthropologique à savoir de quand date l'homme. Ce que le bon sens posait aux spécialistes, c'était cette question de quand date l'homme, ce qui ne peut pas vouloir dire autre chose que quand finira-t-il. D'ailleurs, à un moment, un spécialiste a dit que l'homme, la Terre, finirait dans, je ne me rappelle plus le chiffre, 5 milliards d'années, ou enfin peu importe. Et ce chiffre a évidemment frappé de terreur tout le monde. Donc la question c'est de quand date l'homme. Mais la vraie question, je pense, en tout cas qui peut nous intéresser nous, c'est non pas de quand il date par rapport à des critères, disons, physiques ou anthropomorphiques, mais quand, comment et pourquoi le symbolisme, au sens le plus large du terme, a-t-il commencé ? Est-ce que le symbolisme a commencé dans l'homme ou avec l'homme d'un seul coup, disons, c'est en gros l'hypothèse de Lévi-Strauss qui dit que le langage, en tout cas, n'a pu naître d'un seul coup, n'a pas pu naître progressivement, les choses n'ont pas pu se mettre à signifier peu à peu, elles ont signifié d'un seul coup. Ou alors aussi, observer, et c'est là, je crois, ce qu'il y a de plus intéressant, comment les faits symboliques, les phénomènes symboliques, les symboliques ou les symbolismes semblent être nés toutes d'une façon multiple sur plusieurs fronts à la fois et en même temps. Il y a en effet, ceci est simplement l'observation d'un lecteur amateur, n'est-ce pas, de livres d'anthropologie, mais il semble qu'il y ait présomption et vraisemblance de concomitance d'apparition entre les principales manifestations préhistoriques du symbolisme. C'est-à-dire que seraient nés approximativement ensemble les manifestations du symbolique. C'est-à-dire, pour autant que nous sachions, les outils, le langage, la prohibition de l'inceste, ces trois faits de structure ayant été posés comme concomitants par Lévi-Strauss et Jacobson, mais aussi les incisions pariétales, incisions rythmées, qui ont été analysées par le roi Gouran et qu'il pose comme antérieures aux figurations analogiques, n'est-ce pas ? L'homme n'a pas commencé par faire des images, mais il a commencé par faire, disons, de l'écriture, si on peut dire, ou en tout cas quelque chose qui, par la scansion et par le rythme, est dans la ligne de l'écriture et non pas dans la ligne de l'image. Donc les incisions pariétales, rythmées, la sépulture des morts et l'habitation. Donc, tout cela, c'est pour dire que je pense qu'il, quand on parle de la satisfaction des besoins, il ne faut le faire qu'avec prudence. C'est-à-dire que la satisfaction des besoins n'est jamais purement fonctionnelle. Le symbolique s'en mêle tout de suite, et par conséquent, il ne faut pas dire que la clôture est un pur acte de protection contre les bêtes sauvages, par exemple, ou les dangers. Très probablement, très vite, tout de suite, à cette fonction de protection se sont mêlées des instances symboliques. Je dirais, en poussant les choses un peu, que la clôture a dû être prise très vite, et elle est prise dans une névrose. Dans une névrose à dominante obsessionnelle, et il y a, ce serait un immense dossier à ouvrir, n'est-ce pas ? Il y a des rituels de clôture. Il y a des rituels de clôture. Et il y a ce que j'appelle des expériences limites de la clôture, ou, si vous voulez bien me passer l'expression, qui, de toute manière, en ce qui me concerne, est une expression absolument affectueuse, il y a des clôtures dingues. Et je vais vous en citer. Mais avant, je voudrais rappeler une fois de plus que déjà dans Robinson Crusoe, Robinson, qui est, disons, un sujet, mettez des guillemets à tous ces mots si vous voulez, mais qui est un sujet parfaitement sain, parfaitement rationnel, qui est dominé par le souci de l'empirique, eh bien, Robinson, ce sujet sain, rationnel et empirique, quand il est affolé par le danger, c'est-à-dire des traces de pas qu'il surprend sur la plage, immédiatement, il prend des conduites de protection illimitées. C'est-à-dire qu'il construit une protection qui ne s'arrête jamais, dont la limite n'est, pour ainsi dire, jamais atteinte. La protection, la clôture, devient une sorte de mirage, une asymptote, n'est-ce pas ? Je l'ai dit. Il construit une palissade enceinte qu'il camoufle en taillis, pas de porte, ce qui est le thème évident de la clôture absolue, seulement une petite échelle qu'on tire, et ça fait penser d'ailleurs à un autre roman qui a des rapports avec Robinson Crusoe, dont j'ai déjà parlé, dont je reparlerai certainement, qui est L'île mystérieuse de Jules Verne, où les colons, après avoir campé sur la plage, se construisent, si on peut dire, une demeure dans la muraille de granit, et cette demeure est très haute. On y accède par une échelle qu'on tire, n'est-ce pas ? C'est le thème de la clôture absolue, une échelle qu'on tire jusqu'à ce que le sublime ingénieur et chef Cyrus Smith construise tout simplement un ascenseur, n'est-ce pas, pour aller à cette demeure. Donc on retrouve ici très vite dans ces conduites de clôture excessive le symbolisme de l'enfouissement, de l'emmurement, apparaît à partir d'une donnée empirique de protection. Je dirais que symboliquement, en effet, disons que une fois que le processus de clôture ou d'enclosure est mis en route, il fonctionne vraiment comme un mirage, rien ne peut l'arrêter, rien ne peut le satisfaire, parce que symboliquement, il n'y a pas d'autre protection absolue que le ventre de sa mère. Et sortir, c'est se déprotéger, à savoir la vie elle-même. La vie, vivre, c'est se déprotéger. Naturellement, ces clôtures délirantes ont une fonction apparente qui est de faire que l'ennemi ne puisse pas entrer dans l'intérieur. Mais ceci se convertit par une sorte de radicalité quasi névrotique en impossibilité que l'on s'impose de sortir. Beaucoup d'anachorètes vivaient enfermés dans leur cabane et ils s'interdisaient de sortir et ils communiquaient avec les visiteurs seulement par une petite fenêtre. On disait en grec, l'expression était tout à fait codée puisqu'elle a une expression linguistique, dia turidos, à travers la fenêtre. Il y a une histoire, l'Osiaque, vous savez, ce recueil d'histoires sur les moines sur les anachorètes d'Égypte dont j'ai parlé, qui dit qu'un moine, enfin un ermite, ou disons un anachorète qui s'appelait Dorothée, prénom masculin, qui était le successeur d'Élie, avait à gérer un monastère de femmes. Mais pour ne pas se compromettre dans une vie commune avec ces femmes, il le gérait de loin. C'est-à-dire qu'il était enfermé dans un grenier sans échelle, c'est toujours le même thème, mais il avait une fenêtre, une petite fenêtre, qui avait vue sur le monastère. Et il était sans cesse assis à sa fenêtre pour empêcher les femmes de se chamailler, dit l'histoire. Alors nous arrivons ici aux grandes folies de clôture, aux grandes folies, je mets toujours des guillemets au mot folie, n'est-ce pas ? Si je ne mets pas ces guillemets, ça risquerait d'être un mot trop normatif. Donc aux grandes folies, entre guillemets, de clôture ou d'auto-séquestration, dont je vais vous donner deux exemples, l'un étant certainement attendu de vous, puisque vous connaissez le corpus sur lequel nous travaillons. Le premier, c'est le cas d'un stylite. Il se peut que je reparle des stylites plus tard. C'est le plus célèbre des stylites, c'était Siméon. Siméon le stylite. Je vous raconte son histoire. C'était le fils d'un berger. Il a vécu en Syrie et en Cilicie. La Cilicie, c'est une région qui est au sud-est de l'Anatolie. Et il a vécu au début du 5e siècle après Jésus-Christ. Et ce Siméon le stylite a été animé dès son très jeune âge, dès sa conversion, disons, au christianisme, d'une rage d'ascèse par auto-séquestration. Et il n'a cessé, toute sa vie, d'inventer des procédés pour s'auto-séquestrer. Il a commencé par s'enterrer dans un jardin, dit l'histoire, dans une fosse, jusqu'à la tête, tout un été. Et puis ensuite, il a passé 40 jours dans une cave sans lumière. À ce moment-là, le monastère, on le comprend, a essayé de s'en débarrasser. Et alors, il s'est fait emmurer, il a fait cimenter sa porte et il est resté 40 jours sans nourriture. Évidemment, tout cela est très mythique, c'est le thème des 40 jours au désert. Et pour finir, alors, en 423, vous voyez que tout ça est très précis, près d'Antioche, il s'est installé sur un pilier, d'abord bas, puis qu'il a fait hausser, il s'est installé, n'est-ce pas, sur la plateforme d'un pilier, d'une colonne tronquée, si vous voulez, d'où le nom de stylite, n'est-ce pas, stylos c'est la colonne. Et cette colonne tronquée, qui était d'abord basse, il l'a fait hausser successivement. Ce qui fait qu'en 7 ans, de 423 jusqu'en 430, en 430, cette colonne avait 40 coudées, ce qui représente à peu près une hauteur de 20 mètres. Et il vivait là-haut. Mais non content de s'isoler par cette colonne, il a fait construire autour de la très petite plateforme où il était obligé de se tenir assis, les genoux contre le torse, il a fait entourer cette très petite plateforme d'une balustrade. Et d'ailleurs, de cette balustrade, il excitait l'empereur contre les Juifs. Donc, il y a là la représentation d'une sorte de performance sportive dans l'ascèse. C'est-à-dire, tous ces anachorètes, c'est à qui s'enfermera le mieux, le plus longtemps. On pourrait parler d'une sorte d'olympiade de l'ascèse, et l'épreuve de réclusion vaudrait un peu comme le saut à la perche maintenant, par exemple. Enfin, c'est-à-dire, c'est à celui qui s'enfermerait le mieux et le plus longtemps. Et il est bien évident que le cénobitisme, le monachisme proprement dit, a été institué à peu près à cette époque, précisément pour limiter ses excès par l'exercice d'une vertu qui a été ensuite codifiée par Saint Benoît en Occident sous le nom de discretio. N'est-ce pas? La discretio bénédictine, c'est ce qui interdit aux moines des excès dans l'ascèse. Et il faut aussi rappeler que Dostoïevski, dans Les Démons, parle d'une folle, Élisabeth, ce qu'on appelait une folle en Christ, qui a vécu dans une sorte de cage pendant 17 ans, sans parler à qui que ce soit, sans se laver et sans se coiffer. Et alors là, nous arrivons à la deuxième expérience limite que je voulais citer. disons, qui est un cas donc de séquestration laïque, donc selon nos critères normatifs, qui est renvoyé à la pure psychose, n'est-ce pas ? L'auto-séquestration religieuse est renvoyée à la sainteté, mais l'auto-séquestration laïque est renvoyée à la folie. Et c'est le cas de la séquestrée de Poitiers. Est-ce que c'était une séquestration volontaire ou imposée par la famille ? Selon les normes sociales, la société a répondu que c'était la famille qui avait enfermé Mélanie. Elle s'appelait Mélanie. Puisqu'il y a eu une enquête, il y a eu un procès. Mais en fait, à lire les documents, et c'est le sens du livre de Gide, n'est-ce pas, qui est un recueil de documents, on voit bien qu'il s'agissait d'une sorte de responsabilité commune entre la séquestrée et sa famille, qu'il y avait là, disons, dans cette maison bourgeoise et parfaitement close de Poitiers, il y avait l'exercice, disons, d'une folie collective de séquestration. En effet, le grand-père maternel, qui s'appelait Monsieur de Chartreux, avait été reclus volontaire dans sa chambre pendant très longtemps. C'était une réclusion absolue, et on dit qu'il n'est même pas sorti de sa chambre à la mort de son gendre, qui était pourtant mort dans la chambre à côté. Il s'agissait donc d'une maison bourgeoise, avec une grande porte d'entrée qui était toujours fermée à clé. Il fallait passer par la cour, et seulement passer par la cour, d'ailleurs, les filles de service. On rapporte aussi qu'il y aurait eu, dans la conduite de Mélanie, qui s'est auto-séquestrée, un choc initial, un choc moteur du processus de séquestration. Mélanie, jeune fille, aurait été, disons, exhibitionniste. Elle avait tendance à se montrer aux fenêtres, et d'où le fait que la famille ait fermé les fenêtres. Ce sont des faits réels. Il s'est agi d'une clôture absolue qui a duré 25 ans jusqu'en 1901. Clôture absolue de la chambre, persienne close, fenêtre cadenassée au second étage, volet fermé par une chaîne, fenêtre garnie de bourrelets à tous les joints. Et si des bourrelets si sclérosés, si raidis par le temps, puisque la fenêtre n'avait jamais été ouverte pendant 25 ans, que quand la police est arrivée pour ouvrir la fenêtre, il a fallu l'enlever de ses gonds. Évidemment, dans cette chambre où la séquestrée ne se lavait jamais, où elle faisait ses excréments sur place, dans son lit, il y avait une odeur insupportable de crasse, d'excréments, de vermine. Et pourtant, singulière époque, pourtant pas très vieille, même pas 100 ans, une servante couchée sur un petit lit de fer dans la chambre. Et l'odeur était tellement intolérable que la servante demandait qu'on laisse la porte un peu entrouverte. Mais la mère de Mélanie le défendait en disant qu'on voulait faire enrhumer sa fille. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin dans la folie de clôture ? Oui, sur le plan du thème en tout cas. Et c'est Mélanie elle-même qui en donne le secret thématique. Sa pulsion profonde et unique au sein de la séquestration, c'est-à-dire la séquestration dans la chambre, n'épuise pas l'expérience de clôture, il lui faut quelque chose de plus dans la chambre même, et ce quelque chose, c'est la couverture. La déposition de la mère qui dit « Elle ne voulait pas coucher dans des draps, elle refusait de porter une chemise, elle n'était heureuse que lorsqu'elle était entièrement recouverte d'une couverture. » Et aussi, elle a la passion de se couvrir. C'est un thème assez subtil de la couverture. La couverture, coucher nu sous une couverture, j'ai déjà évoqué ce problème puisque c'est vraiment interdit aux moines, n'est-ce pas, dans la règle de Saint-Benoît. Le fait de coucher nu sous une couverture, évidemment, retire le corps du protocole familier, ménager et insignifiant du couchage. La couverture, à ce moment-là, a même le corps nu, enveloppe, c'est un voile qui enveloppe, qui obscurcit, C'est bien connu que les enfants aiment s'enfouir sous les couvertures. Ça isole absolument. C'est comme une seconde peau. Et il y a évidemment une sorte de régression vers, disons, la clôture maternelle. On pourrait digresser là-dessus, voir un peu quelles sont les habitudes, même modernes, de l'acte d'amour, choses qui sont finalement très mal décrites dans la société actuelle, n'est-ce pas ? Je veux dire que peut-être que dans 200 ans, les historiens futurs ne pourront même pas dire comment on fait l'amour aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il est très possible que cette chose qui ne passe jamais dans les livres, ni dans les romans, ni dans les études de sociologues, peut-être un peu au cinéma. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, il y a donc un trait éthique à interroger. Faire l'amour au lit, c'est pas seulement profiter, disons, d'un meuble horizontal, n'est-ce pas ? C'est pas seulement fonctionnel, c'est peut-être aussi symbolique, comme je disais, c'est s'enfermer à deux, sous les couvertures, c'est abolir le monde autour de soi, c'est, disons, pour reprendre le mythe platonicien d'Aristophane, enfin, c'est faire l'androgyne. Alors, cet ensevelissement profond, Mélanie en était consciente comme d'un bonheur. Elle se trouvait heureuse dans cette clôture folle. Et à ce trou absolu, une chambre entièrement fermée et dans laquelle elle était sous une couverture, elle a donné un nom, et même plusieurs noms. Elle appelait ça, vous le savez peut-être si vous avez lu le livre, sa chère petite grotte. Et quand on l'a transportée à l'hôpital, elle a dit « Tout ce que vous voudrez, mais ne m'enlevez pas à ma chère petite grotte. » Ou encore, elle appelait ça « Le cher bon grand fond ». Le cher bon grand fond, et elle avait une sorte de charabia, parce qu'elle tenait des propos dits incohérents, et elle appelait ça sa chère bonne fond moulin en piâtre. On ne sait pas de quel souvenir ça venait. Voilà comment elle appelait sa réclusion. Et d'où l'expression qu'elle employait, mon cher grand fond mal en piâtre. M-A-L-A-M-P-I-A, avec un majuscule. Alors, je voudrais noter à ce propos que la chose qui est décrite ici, à savoir la clôture absolue, c'est un concept, finalement. C'est ça que je voudrais dire. C'est un concept, puisque ça a un nom. Et un nom nouveau, un nom créé par Mélanie, qui est le nom de Malampien. Je dirais que Mélanie est une logothète, une fondatrice de langue, et que nous pouvons, à partir de là, appeler malampianisme tout mouvement d'affect, même fugitif, qui porte le sujet à s'enfouir, à se couvrir, à oblitérer le monde, non selon une voie d'ascèse, comme dans la réclusion monastique, mais selon une voie de jouissance. Et il est inutile de rappeler que la société réprime le malampianisme. Mélanie est arrachée par la police et par la justice à sa chère petite grotte et elle est installée au grand jour dans un lit d'hôpital, dans la propreté et dans la religion. Alors, il ne m'appartient pas de donner une explication ni même une description pseudo-psychiatrique ou pseudo-psychanalytique des folies de réclusion. Je voudrais simplement noter que la clinique parle bien de claustrophobie, mais à ma connaissance, mais je me trompe peut-être, elle ne parle pas de claustrophilie, ni de claustromanie. Or, je dirais que de la claustrophilie, il y a peut-être des traces, toujours, en beaucoup d'entre nous. J'en surprends en tout cas en moi-même, par le goût de s'arranger des espaces clos de travail, de vie, de sommeil, protégés par des sortes de chicanes, de redans. Et pour finir cette figure de la clôture, je vais indiquer deux formes que je crois archétypiques d'espace clos. Et je les indique parce qu'ils sont paradoxaux, vous allez le voir, parce que ce sont en fait des espaces ouverts. Mais je les tiens pour des archétypes de clôture, bien qu'ils soient ouverts tous les deux. La première forme archétypique de clôture, je dirais, c'est la première forme d'espace de clôture, c'est le labyrinthe. Le labyrinthe, entre parenthèses, j'ai failli même cette année commencer le séminaire par un séminaire interdisciplinaire sur la forme du labyrinthe, mais bon, j'y ai renoncé en tout cas pour le moment, mais c'est peut-être une idée à reprendre parce que c'est un thème très riche sur le plan justement de l'interdiscipline, de l'esthétique à l'exégèse de Nietzsche, par exemple, en passant par la psychanalyse, bien sûr, et par les mathématiques aussi, le labyrinthe est une forme vraiment très polyvalente. Oui, le labyrinthe, disons, cela symbolise le travail paradoxal par lequel le sujet s'emploie à se construire des difficultés. C'est ça, le labyrinthe, c'est se construire des difficultés. Et c'est s'enfermer dans les impasses d'un système. Et c'est pour ça que c'est l'espace même de l'obsessionnel. Je dirais que le labyrinthe, c'est l'espace de la clôture active, donc antithétique à la cellule verrouillée, dans laquelle il n'y a plus qu'à se tasser dans un coin. C'est le contraire même de la cellule, le labyrinthe, parce qu'il implique, il signifie, si vous voulez, mythiquement, thématiquement, un travail incessant et parfaitement vain pour s'en sortir. Le sujet travaille son propre enfermement, il travaille son propre enfermement à travers ses efforts mêmes pour en sortir. C'est ça la dialectique du labyrinthe. Le sujet marche sans cesse, il tourne, et cependant il fait du surplace. Le labyrinthe, ça renvoie à un système hermétiquement verrouillé par son autonomie. Et par exemple, la passion amoureuse, en tant qu'elle est un système, peut être assimilée à un labyrinthe. Quand vous êtes à l'intérieur de cette passion, c'est-à-dire de ce système amoureux, il n'y a aucune issue. Et cependant, il y a un travail intense du sujet pour en sortir, qui peut durer des mois, des années, éventuellement jusqu'au suicide, comme dans le cas de Werther. Et pour sortir du système, pour sortir du labyrinthe, il faut un acte quasi magique, c'est-à-dire la perception brusque, mais qui vient souvent très longtemps après, d'un autre système auquel il faut passer. Et c'est, ce que thématise et symbolise, disons, le fil d'Ariane, qui permet de sortir du labyrinthe. Ce qu'il y a d'intéressant dans cet espace du labyrinthe, en plus, c'est que ce symbole de la clôture ou de l'impossibilité de sortir, ce système inextricable de Redan, est un espace à ciel ouvert. À ciel ouvert, il n'y a pas de plafond, en principe, dans un labyrinthe. Il peut y en avoir, bien sûr, faire des labyrinthes dans des grottes. Mais le vrai labyrinthe, le labyrinthe antique, mythique et antique, est un espace sans plafond. Et c'est ce qu'a très bien compris Fellini, qui l'a très bien représenté dans un épisode du Satyricon, où on voit un labyrinthe à ciel ouvert. Ça veut dire quoi, qu'il n'y a pas de plafond? Ça veut dire que pour quelqu'un d'extérieur, qui a une vue plongeante, et dans le film de Fellini, il y a tout le village est en haut des falaises et rigole, comme on dit, de voir le héros ne pas pouvoir sortir du labyrinthe. La solution est évidente, mais pas pour celui qui est dedans, qui est le cas typique de la situation amoureuse. Une seconde forme de l'espace clos, enfin une seconde forme archétypique, qui, donc, celle-là, vous allez le voir, est absolument antinomique au labyrinthe. puis et qui est peut-être une clôture encore plus archétypique et plus paradoxale puisqu'elle est sans aucune cloison, c'est le désert. Le désert. Bon, alors là, nous retrouvons notre culture chrétienne, orientale et patristique. Vous savez qu'en grec, le désert, désert, ça se dit eremos, en latin eremus, et que c'est le mot qui a donné ermite. Pas l'ermite, c'est celui qui habite le désert. Et le désert anachorétique présente l'ambivalence fondamentale de la clôture. D'une part, c'est un lieu heureux de la solitude, de la pacification, et ça, c'est l'image du désert qui vient de l'hellénisme. C'est ce qui correspond à la notion grecque d'ésukia, ésukia, c'est-à-dire de disponibilité, de paix intérieure. Donc il y a une image bénéfique du désert, mais en même temps, il y a une image maléfique du désert qui est connotée comme la région stérile et des démons, stérile et démoniaque. Et cette représentation-là, elle n'est pas d'origine hellénique ou hellénistique, elle est d'origine égyptienne et sémitique. Et ces deux représentations, ou ces deux filiations, se retrouvent dans le désert chrétien. De plus, pour les chrétiens alors qui se référaient à la culture de la Bible, les chrétiens de l'époque patristique, le désert, Eremus, c'était une réalité biblique qui faisait partie précisément d'un ensemble de lectures, n'est-ce pas? Le désert, pour un chrétien de cette époque-là, c'est l'Exode, c'est le Sinaï, c'est Moïse, c'est Élie, c'est Élisée, et c'est Jean-Baptiste, et c'est le jeûne et la tentation du Christ dans le désert. Alors, ce que je voudrais noter, c'est que le désert, ce n'est pas seulement un lieu, c'est un thème d'existence, puisqu'on disait « vita eremetica », la vie dans le désert. Et par conséquent, en tant que thème d'existence, il était susceptible de variations d'intensité. Aussi, il existe une intensité dernière, ultime du désert, qui l'identifie à la réclusion absolue, c'est précisément le désert absolu. C'était une notion qui même avait reçu un nom, puisqu'on disait « paneremos », « pan », tout entier. Le désert dans son absolu. Et c'est cette forme de paneremos que Saint Antoine a connu. Je dirais que le désert, c'est la forme superlative du malampianisme, c'est vraiment la couverture de Mélanie. Voilà pour la clôture. Il nous reste encore un peu de temps, et si j'ose dire, pour nous reposer, nous allons prendre une figure brève, qui est une figure assez peu... qui manie peu d'idées et manie peu de thèmes, mais plutôt des faits. C'est pour ça que je dis qu'elle va nous reposer, car les faits sont souvent reposants. C'est l'article « Colonies, les colonies d'Anachorète ». Je voudrais en effet, je crois qu'il est nécessaire, j'ai un peu hésité à donner cette figure, mais je pense même que c'est utile, de rappeler certains faits déjà évoqués pour bien comprendre que l'Anachorète, n'est-ce pas ce qu'on appelle l'Anachorète, vous rappelez l'étymologie du mot, c'est celui qui s'en va loin, n'est-ce pas? Qui remonte loin. Vous connaissez la différence entre les deux prépositions grecques, kata, c'est de haut en bas, n'est-ce pas? Comme dans catastrophe, et ana, c'est ce qui remonte de bas en haut. Alors l'anachorète, c'est celui qui remonte vers le fond, loin du monde. Et l'anachorète, c'est celui qui est animé d'un désir de retraite, de retirement. On pourrait dire, par rapport au... Enfin, en utilisant un vocabulaire qui a été lancé à propos des communautés hippies en Amérique, ce sont les drop-out. Drop-out. C'est-à-dire ceux qui veulent tout lâcher, ceux qui veulent quitter le rang. Drop-out. Par opposition au drop-in, ceux qui entrent quelque part. Enfin, nous, ici, nous sommes des drop-in, pas des drop-out. Bon, enfin, pour l'heure actuelle, en tout cas. Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'anachorète n'est pas forcément quelqu'un qui vit seul, mais que les groupements, les constellations d'anachorètes représentent le mieux le champ de l'idiorythmie qui nous intéresse. Alors, j'ai déjà traité avec un certain détail deux types de colonies idiorythmiques, les skites du mont Athos, les idiorythmiques du mont Athos, et puis cette forme très imparfaite d'idiorythmie, les béguinages. Alors, je voudrais vous en donner quatre autres. Comme ça, en digressant un peu, je ne le cache pas. Je voudrais mentionner d'abord une secte d'anachorètes qu'on appelle, mais il faut que je l'écrive, la secte de Qumran. Qumran. Alors, je vais la citer, cette secte, parce que elle est pré-chrétienne, elle est juive, elle est pré-chrétienne. Et alors, dans la masse d'informations chrétiennes que je donne, c'est assez intéressant d'avoir un cas d'anachorétisme pré-chrétien, juif. On connaît cette secte de Qumran par les manuscrits de la Mer Morte, qui, vous le savez, ont été découverts au printemps de l'année 1947, donc il n'y a pas longtemps. Et dans ces manuscrits, on a trouvé un rouleau écrit en hébreu, un texte hébreu qu'on appelle le rouleau de la règle, et qui nous renseigne donc sur cette secte de Qumran. Il s'agissait d'un petit groupe d'hommes retirés dans le désert de Juda à justement un lieu qui s'appelait Qumran. Et ce petit groupe d'hommes menait une vie sainte et austère. Ils avaient fui au désert vers 140 avant Jésus-Christ. Ils existaient donc au temps du Christ et ils ont été massacrés par les Romains en 68 après Jésus-Christ. Le groupe initial comportait 12 laïcs et 3 prêtres. Tout cela est éminemment symbolique, ça veut dire ça renvoie aux 12 tribus d'Israël plus les 3 clans lévitiques. C'était donc un petit Israël en miniature. Puis il y a eu un afflux de volontaires, il y a eu de nouveaux bâtiments. Alors pourquoi cette fuite au désert de ces groupes d'hommes? C'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que je cite le cas de cette secte. Disons que c'était une secte, comme nous dirions maintenant, intégriste. C'était au fond c'était comme les catholiques du... Comment s'appelle-t-il? Du Monseigneur Lefebvre, n'est-ce pas? En effet, ces hommes se sont séparés du territoire d'Israël parce qu'ils s'opposaient farouchement au pouvoir politique et religieux de Jérusalem, pas du tout sur le plan politique, mais tout simplement, ou tout gravement, comme toujours dans ces cas-là, en matière de calendrier. En effet, Jérusalem, le pouvoir politique, avait décidé de supprimer le calendrier liturgique traditionnel, toujours Monseigneur Lefebvre, n'est-ce pas, au profit du calendrier officiel lunisolaire, lune-soleil, du monde hellénistique. Et c'est parce qu'ils refusaient ce nouveau calendrier que ces hommes se sont séparés et sont devenus des anachorètes et ont fui au désert. C'était donc une communauté très attachée aux traditions, très sectaire et à dominante sacerdotale, une espèce de communauté temple. Il y avait une exigence de pureté rituelle, aucun contact avec les hommes d'impiété, même juifs. L'organisation impliquait une structure d'autorité. Il y avait une vie commune, n'est-ce pas ? Une mise en commun des biens. Il y avait un noviciat de 3 ans et, bien entendu, il y avait des punitions. C'était donc presque un petit monastère. Alors j'ai voulu signaler cette secte parce que je dirais, enfin en forçant un peu les choses, que c'est le cas finalement assez rare d'une marginalité, enfin rare par rapport à notre sensibilité actuelle, d'une marginalité de droite, disons, une marginalité intégriste, alors que toutes les expériences contemporaines de marginalité en matière de commune et de communauté se situent plutôt, disons, à gauche qu'à droite. La seconde colonie dont je veux citer le cas, colonie d'Anachorète, c'est la colonie des Nitriotes. Nitriotes, Nitéri, etc. Nitri, la Nitrie, c'est une région d'Égypte. Ce sont des montagnes désertiques qui sont situées au sud d'Alexandrie, à l'ouest du Nil. Or, au IVe siècle, cette région était occupée par une très vaste colonie d'anachorètes, je crois que j'ai déjà cité le chiffre, 5000, dont 600 dans le Grand Désert. Le principe, c'était d'habiter séparément dans des cabanes, situées les unes par rapport aux autres à une distance telle que les ermites pouvaient vivre chacun dans la solitude, tout en se visitant les uns les autres. Et c'est ce modèle de Nitri qui était très souple et qui est peut-être le meilleur modèle de vie idiorhythmique. Il y avait, disons, donc les cabanes étaient dispersées, chacun vivait seul, mais il y avait des services centraux, si on peut dire. Il y avait une grande église, il y avait 7 fours à cuire le pain, une hôtellerie pour recevoir les hôtes, et l'hôte qui passait et qui restait là était reçu sans limite de temps. On lui laissait une semaine où il pouvait ne rien faire, comme un touriste, disons, mais après, on lui donnait du travail. On l'employait au jardin, à la boulangerie, à la cuisine, et s'il était cultivé, on lui donnait un livre à lire. Et la nourriture, c'était du pain et du sel, et il y avait un repas par jour. Le mode de vie, 6 jours dans la cellule, dans la kella, ou dans la cabane, dans la kella, où l'ermite travaillait les nattes, et en même temps qu'il travaillait manuellement, il faisait une espèce de méditation récitée ou de récitation méditée de l'écriture, ce qu'on appelait en grec mêlété. Le samedi, tous se rassemblaient dans l'église et ils avaient un grand repas en commun qu'on appelait agapé, l'agape, et une liturgie commune toute la nuit du samedi au dimanche. Je pense que c'est là le modèle même de l'idiorhythmie, puisque c'est un équilibre entre la solitude et la rencontre, disons. Non pas la cohabitation, n'est-ce pas, mais la rencontre. Car finalement, c'est ça le problème de l'idiorhythmie, c'est d'être seul, mais de rencontrer. Troisième colonie, que je cite, d'Anachorète, elle est bien connue de nous, puisque c'est un cas chrétien et catholique, c'est les Chartreux. On a toujours donné comme les successeurs des solitaires d'Égypte. Vous savez, si vous le savez, disons que votre science est presque supérieure à la mienne, parce qu'il n'y a pas très longtemps que je le savais, que l'ordre des Chartreux a été fondé au XIe siècle par Saint Bruno, qui était né à Cologne et qui a fondé une colonie de solitaires dans la vallée de la Grande Chartreuse. Le principe de cet ordre, c'est qu'il faut un vaste domaine à limite tracée. Vous voyez la clôture, toujours, la clôture comme définition. Et encore une fois, ça, vous allez voir qu'on retrouve tout ce que j'ai dit. Ce vaste domaine s'appelle, dans le langage des Chartreux, le désert. Le désert. Et le fond de la vallée, avec un défilé facile à barrer. Alors, dans ce domaine, dans ce désert, il y a, premièrement, la maison basse. La maison basse est occupée par des frères, c'est-à-dire, en gros, disons, des ouvriers, des moines ouvriers ou des moines domestiques, qui sont des agriculteurs ou des artisans. Et puis, il y a la maison haute qui est occupée par des pères, avec un grand office liturgique de modèle bénédictin, puisqu'il y a aussi, pour cet ordre, copie de livres. Alors, c'est ça qui est intéressant pour nous, n'est-ce pas, pour l'idiorhythmie. Chaque père chartreux a sa kella, sa demeure individuelle. Et cette kella n'est pas une cellule, c'est une petite maison. Ou c'était, je ne sais pas comment c'est maintenant, une petite maison. Cette petite maison comprenait un rez-de-chaussée avec un bûcher pour mettre le bois et un atelier pour bricoler sans doute. un premier étage où il y avait deux pièces au premier étage. Il y avait une pièce qu'on appelait l'Ave Maria, qui était une cuisine individuelle, qui a été abolie au XIIIe siècle. N'est-ce pas? Le moine se faisait sa nourriture. Et puis une seconde pièce où le moine priait, lisait, mangeait et dormait. À cette quella, c'est-à-dire à cette petite maison, était attenant un petit jardin et une galerie pour le mauvais temps. Alors le principe, c'est évidemment la solitude. L'oraison, les oraisons et une partie de l'office se font individuellement dans la quella. À l'église, on va collectivement la nuit pour un ou deux offices, le matin pour la messe et l'après-midi pour les vêpres. Il y a un repas en commun le dimanche et chaque semaine, il y a une promenade en communauté. Alors, je voudrais noter à ce sujet, premièrement, l'existence d'une division sociale, nous reviendrons là-dessus, entre les frères et les pères. Deuxièmement, l'individuation de l'habitat. C'est une chose qu'on retrouve dans les frères Karamazov de Dostoïevski, où le starets Zosima n'habite pas le monastère, mais il habite justement une petite maison à côté, une skite. Et ce qui est plus intéressant au début, individuation de la nourriture et du repas. Je crois ça très important que cet ordre, tout au moins dans les deux premiers siècles, ait rejeté, parce que c'est très rare, la convivialité au sens propre, c'est-à-dire le fait de manger ensemble. Car on pourrait se demander, ou disons, esquisser une typologie des sujets humains sur ce point, évidemment, apparemment très futile, ceux qui aiment manger seuls et ceux qui aiment manger ensemble. D'habitude, on aime manger en commun, mais il y a des sujets qui préfèrent manger seuls. Et donc, c'était le cas des premiers chartreux. Je termine en débordant de 3 minutes l'heure parce que je n'ai plus que quelques mots à dire sur la 4e colonie d'Anachorète que je voulais signaler. C'était les solitaires de Port-Royal. Il s'agissait d'une communauté sans forme puisque les messieurs, enfin les solitaires, ne faisaient ni profession, ni vœux et ils n'avaient pas d'habits. Et ils n'avaient même pas de stabilité de demeure. Comme le dit l'un des leurs, le maître, et la citation est très simple et je pense assez belle, « Ce sont des amis qui vivent ensemble selon la liberté ordinaire et générale. » Ce sont des amis qui vivent ensemble selon la liberté ordinaire et générale. Il n'y avait pas de support institutionnel. L'idée avait pour origine une idée de Saint-Cyran qui, justement, s'était inspiré pour avoir cette idée de la règle des chartreux. Alors, les solitaires de Port-Royal ont formé un groupement purement empirique, nullement institutionnel, à partir de 1637. Et puis, il y a eu, c'est ça que je noterai, je ne vais pas faire l'histoire de Port-Royal, j'en serais bien incapable, mais il y a eu un projet, disons, une espèce de vue assez utopique et assez fantasmatique du duc de Luynes, qui protégeait, vous le savez, Port-Royal, et dont le domaine était tout à côté de Port-Royal-des-Champs, qui pensait édifier autour de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs 12 ermitages réguliers réservés à 12 messieurs choisis. Et c'est toujours le symbolisme des 12 tribus d'Israël répartis radialement autour du tabernacle. Vous vous rappelez que nous avons vu cette forme, le tabernacle. Et à la mort de chacun de ces messieurs, il n'y serait entré qu'un successeur déjà éprouvé. Et on disait, cela fera ce qu'on appelait l'image idéale de Sion. Alors, je voudrais noter simplement pour finir que malgré la détermination chrétienne et janséniste de cette idée des solitaires de Port-Royal, il me paraît remarquable que le fondement déclaré et répété de ce groupement de laïcs ait été l'amitié. Certes, nous avons distingué entre la détermination d'un groupement les mobiles et le telos, la fin, vous vous rappelez, au mot cause. Eh bien là, je dirais que la détermination est certes la perfection de vie chrétienne, mais que le telos, c'est l'amitié. Voilà, à mercredi prochain.